Ouais, on a reconnu le générique, vous êtes bien sûr Radio Galère.
Et plus précisément sur NDChaîne. Ce passeport semble être devenu le centre de l'univers. Je suis sûr qu'on a fait la guerre uniquement pour pouvoir réclamer dans tous les pays livrée de marin ou passeport. Avant la guerre, personne ne voulait demander, et les gens s'en portaient beaucoup mieux. De toute façon, les guerres menées au nom de la liberté, de la démocratie et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont toujours suspectes. Quand une guerre de libération est gagnée, tous les gens sont ensuite privés de liberté, car la guerre l'a emporté sur la liberté. En ces temps de démocratie achevée, l'hérétique c'est le sans-passeport, l'individu qui n'a donc pas le droit de vote. À chaque époque ses hérétiques, à chaque époque son inquisition. Aujourd'hui le passeport, le visa, l'anathème dont est frappée l'immigration sont les dogmes sur lesquels s'appuie l'infaillibilité du peuple, auxquels il faut croire si on veut éviter d'être soumis aux différents degrés de torture. Jadis les tyrans étaient les princes, aujourd'hui c'est l'État. La fin des tyrans passe toujours par la déposition et la révolution, quel que soit le tyran. La liberté de l'homme est depuis toujours trop intimement liée à son existence et à sa volonté pour qu'il puisse supporter longtemps une tyrannie, même si cette tyrannie se drape dans l'habit de velours mensonger du droit à la cogestion. C'était un extrait du Vaisseau des Morts de Travène, dont on parlera là, plus tard dans l'émission.
Moi, je voulais vous parler de notre goût très à l'occidental, pour le dramatique jusqu'au spectaculaire. Et donc, cela en partant de l'histoire du gnou et du crocodile. Alors moi, j'appelle ça un drama purge. Un drama purge qui se joue tous les ans en Tanzanie, ouais, près de Serengeti, avec pour le coup son flot de touristes pour faire les photos. Alors vous ne la connaissez pas peut-être cette histoire, vous n'avez jamais été en Tanzanie, berceau du monde. Eh bien chaque année, les gnous, des milliers de gnous, durant leur longue migration, eh bien à un moment précis et toujours au même endroit, certains vont se sacrifier pour sauver tous les autres. Se sacrifier en se jetant dans la gueule du crocodile, celui qui va notamment jeter en premier, ou plus précisément en se jetant à l'eau, pour la traversée du fleuve de la Mara au nord-est de la Tanzanie, où les attendent là les plus gros crocodiles d'Afrique. Et tous les ans a lieu ce spectacle dramatique où la mort de quelques-uns permet à tous les autres de s'en sortir. Alors sélection naturelle, diront certains, spectacle magnifique et magique pour d'autres, impressionnés par la puissance du crocodile dans un bain sanglant, déchiquetant le plus de gnous possible. Alors a priori, et des a priori j'en ai peut-être trop, mais pour une personne qui serait plus ou moins saine d'esprit, si empathie on peut avoir, ce serait logiquement, eh bien, pour les gnous. Empathie, on pourrait même voir la sympathie. Alors, pas malin ou courageux, le gnou ? Dépressif ou collectif, le gnou ? Durant, dans tous les cas, ces quelques petites heures fatales de ce long voyage de 9 mois. Dans tous les cas, force est de constater que si les gnous s'en sortent, enfin la plupart, c'est grâce au nombre. Car même dans le monde animal et cruel, il n'y aura jamais assez de crocodiles pour les empêcher de passer. Il n'y aura même jamais assez de crocodiles pour les tuer tous. Alors ils passent. Et finalement, pas si bête la bête. Prêt au sacrifice, ils passent. Et tous ces putains de crocos peuvent bien les attendre. Ils passeront. Car il y va de leur survie, à tous. Et tous les ans, ils passent. Alors pas malin et dépressif, ou courageux et collectif. Peu importe, peu nous importe, mais il faut que leur mort serve à quelque chose. Alors si je vous ai ému avec ces histoires de gnous, bande de crocodiles, vous voyez peut-être déjà où je veux en venir. Car si j'utilise le langage bestiaire si facile dans la bouche du cul de blanc, les Syriens, les Érythréens, les Soudanais, les Libyens, etc., eh bien ce sont les gnous d'aujourd'hui. Et votre indifférence est le crocodile, dont les dents acérées sont des flics habillés en bleu, avec un cerveau en costard-cravate. Alors évidemment, on peut se dire si en Tanzanie, il n'y avait pas de gnous. Eh bien les crocos, ils crèveraient de faim, et ils en ont besoin des gnous, qui, depuis si longtemps, en crèvent. Alors on peut se dire aussi qu'on s'en fout, on n'est pas les gnous. Mais moi, je veux pas être un morceau de ce crocodile, et je veux aider les gnous, comme je peux, avec la furieuse envie de les aider avant que les crocos leur tombent dessus, vos crocos. Car moi, vos crocos, j'en ferais bien des souliers pour les migrants. Donc l'indifférence, je vous disais, notre indifférence, même notre anesthésie, analgésie, notre paralysie, c'est ça qui les tue, les migrants. Eux, ils veulent juste passer. Il y va de leur survie. Car notamment de déployer de plus en plus de crocodiles sur leur route, eh bien les crocodiles, ils sont venus jusque chez eux, à coups de trique, de bombardements, de pillages et de massacres. Mais là, je vous disais, c'est pas des gnous. Et pourtant, à nos frontières, il ne leur reste plus que ces possibles sacrificiels, comme le gnou, dramatique et spectaculaire. D'un, pour passer et survivre, finir ce voyage, en plus pour finalement aller bosser comme un crevard. Mais de deux, car c'est la seule chose qui vous fasse réagir et oblige les crocos à en laisser passer. Des milliers de morts dans la Méditerranée, noyés après le naufrage d'embarcations de fortune. Des dizaines d'électrocutés percutés dans des tunnels à train, plus voraces que le plus gros des crocos. Tapés, gazés, déportés, enfermés, parqués, par centaines de milliers, à l'assaut de murs, de barbelés, dans des montagnes, pendant des durées de voyage improbables. Cachés dans des trains d'atterrissage d'avions, où ils en meurent gelés. Tellement de choses que vous ne seriez jamais prêts à faire. Alors faut-il vraiment que leurs cadavres flottent sur les plages de vos vacances ? Faut-il que, pas loin d'un aéroport, près de Paris, dans un quartier standing, un môme vienne s'écraser dans une piscine un week-end devant vos mômes, ou même bien sur vos mômes, et qu'ils en crèvent ? Faut-il vraiment qu'ils se fassent écrabouiller sous vos yeux dans votre TGV qui vous emmène en balade à London ? Parce que c'est ce qui est en train d'arriver, gentiment, tranquillement. Car les manifs de soutien, les commentaires politiques, les bonnes intentions et les actions de solidarité, etc., ça change rien. Tout le monde s'en fout. Et il semblerait même que cela s'empire pour les migrants. Et que hormis ce carnage orchestré, leur seule chance serait qu'un jour, les crocos deviennent végétariens. Et ça, c'est pas pour demain. Alors bon courage, l'ami gnou. Et si un jour te vient l'envie de mordre le croco, de le défoncer, de le dévorer, t'auras tout notre soutien. Et c'est signé quelques bourricots.
Sing wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strained. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange. When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down.
Continuer, je vais vous lire un petit extrait d'un texte que vous pouvez retrouver sur Paris Lutte Info, qui est intitulé « Vague de migrants sans précédent ». Le grand remplacement, le tsunami migratoire, l'invasion, la déferlante sans précédent de migrants qui submergent l'Europe, c'est l'arrivée de 100 000 réfugiés cet été. Depuis un an, ça fait au grand maximum 4 fois plus. C'est énorme, paraît-il. Ce flot de pauvres va faire couler l'économie d'une Europe austère qui explique au monde entier, depuis des dizaines d'années, que c'est elle qui paye pour les autres. Cette Europe de l'Ouest, riche et obèse, qui a colonisé en continu et pillé les ressources des autres populations, représente, au bas mot, 400 millions d'habitants. 100 000 réfugiés pour 400 millions de citoyens, ça représente un grand remplacement estival de 0,025% de la population européenne. En France, la soupe est grasse et on tente de faire oublier que les conflits qui amènent les migrants ont pour origine le pillage de l'Afrique. En France, la soupe est grasse et c'est chacun pour sa gueule.
La misère augmente énormément dans le monde. Tout augmente, c'est normal.
Regardez les morts en Afrique à la télé, en direct. Pauvre d'abord, avec une petite chemisette. Eh bien, cher docteur, ce petit enfant a donc la famine et vous ne pourrez rien pour lui. Il va mourir malgré tout ce que vous lui avez donné comme médicament. Ben oui, vous voyez, l'œil ne réagit plus. Vous voyez, je le pince, il ne bouge pas. Ça y est, il est mort. Bon, ben coupé, elle est bonne. Oh non, arrêtez là. Arrêtez là. Il vient de mourir dans le poste maintenant. Non. Il y a des mecs qui meurent de la famine pendant qu'on est à table. La misère du monde n'est pas de dimension humaine. Il y en a trop de misère. Alors on s'occupe de la nôtre et puis quand on n'en a pas, tout va bien qu'on va pas s'en occuper. Hein ? Un mec qui n'aurait pas de misère, qui s'occuperait de misère, serait vraiment un con. Ça s'appellera utiliser son intelligence à ses dépens. Les mecs qui gueulent après la guerre, il y en a partout. Voilà. La guerre, ça n'existe pas tout seul. Faut bien trouver des mecs pour la faire. Hein. Je sais que c'est mal de pas s'occuper de la misère du monde, je le sens, je me dis, t'es bête, t'es vraiment con, bon t'es con, allez. Alors je me dis, la prochaine fois qu'il y a une nouvelle guerre, c'est-à-dire la prochaine fois, je m'occupe de tout.
Et si je m'occupe de tout, soyez les bienvenus. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas les pays d'Europe, mais les pays en développement qui reçoivent la majorité des personnes en demande de protection. 90% des demandeurs d'asile et des réfugiés vont dans des pays proches ou frontaliers des conflits. Donc, l'Europe n'est absolument pas la zone du monde la plus affectée, ni la destination privilégiée de ceux qui ont la mort ou la faim aux trousses. Par rapport à la situation des réfugiés syriens, l'exemple est flagrant. Alors que le nombre de déplacés va bientôt atteindre les 4 millions, l'ONU a demandé que 30 000 d'entre eux soient réinstallés dans des pays occidentaux. L'Allemagne en a promis d'en accueillir 20 000, la Suède 1 200, la France 500. L'immense majorité des réfugiés syriens s'installent au Liban, en Jordanie, en Turquie ou en Irak. Le Liban a entre 1,3 et 1,8 million de réfugiés sur son sol, selon les sources. La grande majorité sont syriens, et une petite proportion vient d'Irak et du Soudan. Aux Syriens de Syrie, entre guillemets, s'ajoutent 52 000 Palestiniens qui vivaient dans les camps en Syrie et 40 000 Libanais qui vivaient en Syrie avant la guerre. Au Liban, la population libanaise, entre guillemets, est de 4 millions. Ce qui signifie que les réfugiés représentent aujourd'hui au moins un quart de la population. En Jordanie, un autre pays frontalier de la Syrie au sud, il y aurait 600 000 réfugiés syriens, ainsi que des Somaliens et des Soudanais. La population en Jordanie est d'environ 8 millions. Dans les pays frontaliers des États en guerre, le nombre de réfugiés est donc réellement important, surtout au regard du nombre d'habitants. Bien sûr, cela génère des conflits. Pour exemple, une partie de la population libanaise est vulnérable, et les quantités d'eau et de nourriture viennent souvent à manquer pour les pauvres, qu'ils soient libanais ou syriens. Parce que le Liban et la Syrie ont du passé commun, les réfugiés syriens mettent les Libanais en présence de leur histoire et ravivent des tensions mal éteintes. Mais dans le même temps, chez certains Libanais, le souvenir de la guerre civile libanaise provoque de l'empathie et incite à la solidarité. Si l'État libanais, qui reste un État, a mis en place depuis janvier 2015 un système de visa pour les réfugiés syriens, le gouvernement libanais assure qu'il n'expulsera personne. Ici, dans des pays riches et sûrs, on expulse, et c'est le retour à la guerre et à la misère. À la vue de l'agressivité et du rejet que les États européens ont vis-à-vis des quelques réfugiés économiques, politiques ou autres qui tentent de venir en Europe, c'est à se demander si ça ne nous remettrait pas les idées en place de se prendre une ou deux bombes ou de crever un peu de faim. Dans l'espoir qu'il ne faille pas en arriver là, soyez tous et toutes les bienvenus.
C'est bien que rue Belleville, rien n'est fait pour moi. Mais je suis dans une belle ville, c'est déjà ça. Si loin de mes antilopes, je marche tout bas. Marcher dans une ville d'Europe, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Y a un sac de plastique vert au bout de mon bras. Dans mon sac vert, il y a de l'air. C'est déjà ça. Quand je danse en marchant dans ces jets là-bas, ça fait sourire les passants. C'est déjà ça. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Déjà ça. Déjà. Pour vouloir la belle musique, soudain mon Soudan. Pour un air démocratique, on te casse les dents. Pour vouloir le monde parler, soudain mon Soudan. Suis de la parole échangée, on te casse les dents. Oh, oh, oh. Et je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Je suis assis rue Belleville au milieu d'une foule, et là le temps est morphine. Je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh, oh. Rêver, c'est déjà ça, c'est déjà ça. je rêve que soudain mon pays soudain se soulève. Oh oh, rêver c'est déjà ça, c'est déjà ça.
Ouais, vous êtes toujours sur ND Chaîne 88.4 sur Radio Galère. Et du coup, on continue cette émission sur les migrants. Et du coup, moi, je voulais vous parler de Calais. Vous n'êtes pas sans savoir que Manuel Valls est allé à Calais aujourd'hui pour annoncer de nouvelles mesures. Mais revenons un peu en arrière. En janvier 2015, donc, l'ancien centre de loisirs Jules Ferry de Calais est transformé en d'une part un accueil de nuit pouvant accueillir une centaine de femmes et d'enfants et d'autre part un accueil de jour devant permettre la distribution d'un repas par jour et l'accès aux douches, douches qui ne viendront finalement que 4 mois plus tard, pour les migrants non hébergés. Cerise sur le gâteau, la mairie autorise ces derniers à camper sur le terrain qui se trouve à proximité du centre. Une proposition alléchante que personne n'oserait refuser. Un terrain vague, ancienne propriété industrielle, sans électricité, sans drainage des eaux, sans organisation du ramassage des ordures, à 6 km du centre-ville. Dans les semaines qui suivent l'ouverture du centre Jules Ferry, la mairie expulse les squats et autres camps où les réfugiés vivaient dans le centre de ville de Calais. Dommage pour ceux qui avaient un toit, un accès à l'hygiène, à un minimum de confort. Ils rejoindront les quelques 3000 migrants et migrantes de la New Jungle, comme on appelle le petit paradis en question. La New Jungle, c'est un camp de réfugiés dont personne ne semblait vraiment se soucier jusqu'à maintenant. Si ce n'est bien entendu les habitants eux-mêmes et quelques voisins solidaires. Jusqu'à ce qu'une nuit de cet été, plus de 1700 tentatives de passage vers l'Angleterre soient constatées. L'Angleterre tape alors du poing sur la table. La France et l'Angleterre décident donc de faire se rencontrer leurs ministres de l'Intérieur respectifs pour signer un accord. Le 20 août, c'est officiellement fait, même si, quand on cherche un peu, on ne trouve aucun accord, mais une simple déclaration commune des deux gouvernements. Déclaration dont je ne peux m'empêcher de vous livrer le meilleur du pire, comme on dit. D'abord, en termes de phrases creuses et de langue de bois sur la coopération franco-britannique, comme l'article 4, dont on se demande bien à quoi il peut servir. Donc article 4, les gouvernements français et britanniques entretiennent de longue date une collaboration étroite et concrète. Cette proximité et cette détermination commune sont manifestes à Calais, ainsi qu'au travers des réponses apportées aux enjeux plus larges de l'immigration irrégulière. L'approche conjointe adoptée par nos deux pays est une excellente illustration de la nature et de la qualité de nos relations. Si vous le dites... Les mauvaises langues diraient pourtant que lorsqu'on a besoin de réaffirmer des évidences, c'est sans doute qu'elles ne sont pas si évidentes que ça, ou pas si manifestes qu'on le dit. Continuons avec l'article 6 et un constat. L'augmentation du nombre de candidats à l'entrée au Royaume-Uni depuis Calais. Constat suivi d'une sorte d'explication. Les tentatives répétées pour se soustraire au contrôle de la frontière entre la France et le Royaume-Uni sont le symptôme aigu d'un problème qui trouve son origine en Afrique et au Moyen-Orient ainsi qu'en Asie. Les passeurs exploitent cette situation en extorquant de l'argent aux migrants, en particulier à ceux qui traversent la Méditerranée, au péril de leur vie. En 3 phrases, tout est dit ou presque sur la question migratoire. On passe de la frontière franco-britannique à l'Afrique, au Moyen-Orient, à l'Asie, pour finir sur les passeurs en Méditerranée, les migrants qui y meurent. Et moi, eh ben, à vrai dire, j'ai un peu perdu le film. Il faut dire que les passeurs sont considérés du début à la fin de cette déclaration comme les seuls responsables des migrations internationales. Sans eux, qu'on se le dise, les migrants et migrantes resteront chez eux. Et c'est bien normal, puisque dans ce texte, on ne parle pas de réseau de passeurs, mais de réseau criminel responsable de la traite des êtres humains. Alors, sans vouloir nier la vocation criminelle d'un certain nombre de réseaux de passeurs, sans oublier les femmes violées ni les hommes jetés à la mer, et même si, il faut le dire, bien des personnes facilitant le travail ou le séjour des migrants ne le font pas dans le but de se remplir les fouilles, l'emploi de ce terme de traite des êtres humains laisse à penser que les migrants présents à Calais ne sont pas là de leur plein gré, que des trafiquants les auraient arrachés de force à leur pays pour les amener ici, voire même les contraindraient à se rendre en Angleterre. Et d'ailleurs, les deux ministres n'hésitent pas à l'affirmer dans l'article suivant. parce que de nombreux migrants quittent leur pays d'origine bien malgré eux et souhaitent y retourner un jour, il nous faut également investir dans les pays limitrophes pour ralentir les flux. De quel pays parle-t-on ? On n'en saura pas plus. Des pays limitrophes de l'Europe ? Nul doute que l'idée de gérer ces flux ralentis ou pas pour le compte de l'Union européenne va leur plaire. Du Liban, comme on vous le disait, qui accueille déjà l'équivalent d'un quart ou d'un tiers de sa population de réfugiés. Ou bien au Niger, où la France et l'Angleterre proposent généreusement de créer un centre de soutien pour les migrants. On apprend que ce centre visera à fournir aux migrants une information sur les dangers des migrations illégales, ainsi qu'à favoriser les alternatives à la migration et l'aide au retour. Car c'est avec la chasse aux passeurs l'autre solution préconisée par cette déclaration. Il faut prendre des mesures pour rendre moins attractive la perspective d'une immigration illégale. Et c'est bien vrai d'ailleurs que la perspective d'une immigration illégale est terriblement attractive. Cette solution est développée dans l'article 20, où on peut lire que « Pour corriger toute perception erronée des conditions de vie au Royaume-Uni, le gouvernement britannique maintiendra son programme bimensuel d'information auprès des candidats à la traversée. Des agents des forces aux frontières présents sur site informeront les migrants des nombreuses difficultés éprouvées au quotidien par un migrant en situation irrégulière au Royaume-Uni. » Alors, franchement, moi, j'étais pas au courant de ce programme bimensuel, mais j'avoue, là, ça me rend curieuse. On se demande un peu quelle forme ça peut prendre, genre cours obligatoire sur le parking à l'entrée du tunnel, des flics expliquant à des migrants qui ont fui la guerre, qui ont survécu à des trucs terribles et qui vivent depuis des mois dans des conditions sordides dans la New Jungle. Ces flics vont leur expliquer qu'en Angleterre, it's not so fun. Sur la fin de cette déclaration, on s'achemine carrément vers la prophétie incantatoire en proposant de travailler de concert pour mettre fin aux activités des passeurs en collaboration avec les pays partenaires, y compris avec une Libye stabilisée, grâce au soutien apporté à un gouvernement d'union nationale. Alors je passe sur travailler de concert en collaboration. Mais concernant une stabilisation de la Libye, il semble qu'il va falloir attendre un peu. Les plus optimistes attendant la nomination du gouvernement libyen pour la mi-septembre, d'autres envisageant déjà l'échec des négociations interlibyennes sur le sujet. Et pour finir sur cette déclaration, qui vous voyez est plein de trucs super intéressants, une petite perle à l'article 16 sur la mise en commun des connaissances en matière de traduction des langues parlées dans les pays d'origine des migrants. Je parle bien des pays d'origine des migrants. Où on nous dit que le Royaume-Uni fournira ainsi des traducteurs et des analystes maîtrisant alors plein de langues que moi je ne connaissais pas, à part la première, le pachtoun, l'oromo, le tigrinia, l'amharique et le tamoul. La France, bien moins originale, va fournir quant à elle des traducteurs et analystes maîtrisant l'albanais, l'ukrainien, l'arabe, et le kurde et le néerlandais. Alors, je ne sais pas trop d'où peuvent venir tous ces migrants qui parlent le néerlandais. Peut-être des migrants belges. Mais pour info, le néerlandais est parlé aux Pays-Bas, en Belgique et au Suriname, donc un petit pays d'Amérique du Sud qui est situé juste aux portes de la Guyane et dont on ne voit pas bien ce qu'il foutrait à Calais, éventuellement en Hollande, mais à Calais, je ne sais pas. Et sinon, il y a l'Afrikaans, qui est une des langues parlées en Namibie et en Afrique du Sud. Mais la Namibie et l'Afrique du Sud sont plutôt des pays vers lesquels les Africains immigrent. Et en plus, on y parle aussi anglais. Bref. Donc pour finir avec la visite de Manuel Valls aujourd'hui, donc 11 jours plus tard, Manuel Valls s'est rendu à Calais. Il y a annoncé la mise en place pour début 2016 d'un campement pour 1500 personnes. Alors qu'il y a plus de 3000 migrants dans la New Jungle, ça s'annonce surpeuplé avant même d'être construit. Encore que parler de construction, ça semble un tantinet exagéré, puisqu'un campement, c'est bien un campement, et qu'il s'agit donc de planter 120 grandes tentes pour 12 personnes, soit, si je compte bien, 1400. Sérieusement, 120 tentes à planter en 4 mois, ça fait quand même moins d'une tente par jour. Mais ne soyons pas de mauvaise foi, car 4 mois, c'est sans doute le temps nécessaire pour construire le mur d'enceinte et les miradors de cette future prison à ciel ouvert.
Et on va continuer avec un sujet d'actualité. La Hongrie qui a fermé le 17 juin sa frontière avec la Serbie. Alors depuis mi-juillet, elle construit un mur. Et pour commencer, les militaires ont posé une clôture de fil de fer barbelé qui vient d'être terminée, vous l'avez sans doute entendu. Il y a une palissade de 4 mètres de haut qui doit ensuite être construite sur les 175 km de cette frontière avec la Serbie. Le gouvernement hongrois a aussi annoncé vendredi avoir l'intention de punir d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison toute personne franchissant illégalement les barbelés. Un millier de policiers sont déployés près de la barrière. 2000 de plus sont attendus après le 1er septembre. Le gouvernement a même laissé entendre qu'il pourrait recourir à l'armée pour des tâches liées à la défense de la frontière et aux migrations. Mais pour l'instant, la clôture provisoire n'impressionne pas trop les migrants. Nous ne craignons ni la police hongroise ni la clôture. Ce n'est rien comparé à ce que nous avons traversé en Syrie. Notre pays a été détruit. Nous avons connu quotidiennement les bombes, les assassinats, le sang et les morts. Beaucoup de migrants utilisent les tiges de mesure laissées par les troupes hongroises comme levier pour soulever la partie inférieure de la clôture. Ils sont passés en Grèce, puis en Macédoine. Ils viennent d'Irak, d'Afghanistan et surtout de Syrie. En tout, depuis janvier 2015, environ 100 000 personnes seraient entrées dans l'UE par la Hongrie ou un autre pays des Balkans, selon l'agence Frontex, chien de garde des frontières extérieures de l'espace Schengen. Quand ils arrivent à entrer sur le territoire hongrois, ils sont retenus entre 12 et 24 heures dans un camp surpeuplé, situé juste après la frontière. Le temps de laisser leur empreinte digitale et de déposer une demande officielle d'asile qui les empêchera d'en refaire une autre dans un pays où elle a plus de chances d'être acceptée, selon la loi Dublin II. D'ailleurs, ces pays des Balkans ne sont pas seulement des pays de transit. Ils sont aussi des pays de départ, avec des milliers d'habitants migrant vers l'Europe occidentale. Sur les 44 000 sans-papiers repérés aux frontières de ces pays au premier trimestre 2015, 27 000 étaient, selon Frontex toujours, des ressortissants des pays des Balkans de l'Ouest. À titre d'exemple, le salaire moyen en Macédoine, c'est 350 euros. Du coup, à peu près la moitié de ceux qui arrivent en Allemagne viennent des Balkans de l'Ouest. Les Hongrois qui vivent près de la frontière disent qu'avec la barrière qui commence à 1 km de là, c'est clair que les réfugiés feront le tour par la Roumanie. C'est évident quand on regarde une carte. Ce mur, c'est de la politique intérieure, dans l'intérêt de la Fidesz, le parti au pouvoir. Une espèce d'affiche de propagande nationaliste de 4 mètres de haut et 175 km de long. Le mur ne vise pas à contrer l'immigration, mais à récupérer les voix des électeurs d'extrême droite. Il y avait d'ailleurs déjà des radars thermiques sur toute la frontière, et 98% des migrants étaient arrêtés. Et c'est pas seulement en Hongrie. Récemment, la Macédoine a déclaré l'état d'urgence et fermé sa frontière pendant 3 jours, repoussant les migrants à coups de matraques et de grenades assourdissantes. L'Autriche, frontalière à la fois de l'Italie et de la Hongrie, propose au sommet des Balkans d'intensifier la lutte contre les réseaux de passeurs, de renforcer la coopération sécuritaire, etc. Dans tout l'espace Schengen, quand les murs et les barbelés n'existent pas déjà, ils sont dématérialisés, invisibilisés. Ces murs-là aussi, ceux qui ne se voient pas, nous rêvons de les voir tomber.
Pour continuer, on va passer à un montage qui parle des politiques migratoires et de la nécessité de l'armée de réserve, qui parlera aussi de l'espace Schengen et l'Europe forteresse, de Frontex
et qui finira par l'apparition du travailleur immigré dans les années 80. Mais avant, une petite musique.
Des coins qui puent, du venin du pu, des contrats rompus, tout ce qui a corrompu. En guise d'accueil, le mauvais œil, l'avarice et l'orgueil, tout ce qui porte le deuil. T'auras gratteur d'acédique, squatteur sceptique, menteur psychotique, sondage et statistique. À tout âge, pas de rêve, ni même de confort, mais des cris de truie, du bruit et pas mal d'efforts. C'est tout ce que t'auras, des délinquants, des truands, des voyous, des wesh wesh, des yo-yé, des cris de you-you, des narvalos, sous au bout du rouleau, parce que sans boulot, prêt à faire une boulette. C'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce. Te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras. J'ai la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce. T'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras. Une drogue douce, drogue dure, et puis des ordures, képi, avec une paire de couilles à la ceinture, sans répit. Humiliation, arrestation, détention, centre de rétention, égale expulsion à tous les étages, de la frustration et du chantage, des séquestrations et des prises d'otages, foutage de gueule, belle parole, promesse sans fin, du ras-le-bol et des grèves de la faim, l'arroseur arrosé, refus à l'embauche, motif, trop bronzé, la chance que tu chevauches, la poisse qui te cravache, vache folle et grippe aviaire, c'est tout ce que t'auras pour finir sur une civière. C'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras. Délocalisation ou bien licenciement, les pieds dans le ciment, guise de remerciement. Hommage, chômage, dommage, collatéraux, les gens sont le carreau, c'est la merde depuis que c'est l'euro. C'est tout ce que t'auras, des pompiers pyromanes, des mythomanes, des kleptomanes, des nymphomanes. C'est la crise profonde et le malaise, tous ces politiciens qui volent les fuites à l'anglaise. Les financements occultes, les paradis fiscaux, le système judiciaire qui est un fiasco. Racisme, jusque dans les stades de foot, derrière la carte postale, t'auras tout ce qui te dégoûte. C'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, pays de mon enfance, là où on t'enfonce, t'offense, te défonce, toi qui es sans défense, c'est tout ce que t'auras, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, c'est tout ce que t'auras, pays de mon enfance, c'est tout ce que t'auras, chez la douce France, c'est tout ce que t'auras.
Alors, revenir un petit peu sur ce à quoi servent les centres de migration et à quel endroit ils sont un rouage de politique migratoire. Politique migratoire qui sert un système économique, celui dans lequel on vit, un système capitaliste. Ce qui permet à un patron de faire des bénéfices, c'est la marge d'argent récupérée entre le coût de revient de la marchandise produite et le prix de sa vente. C'est ce qu'on appelle la plus-value. Et la façon la plus évidente de la produire, cette plus-value, c'est d'augmenter le prix de vente ou le nombre de ventes, tout en diminuant le coût de la production, c'est-à-dire les dépenses en salaire et le prix de revient des matières premières. De fait, c'est en cherchant toujours à exploiter une main-d'œuvre plus précaire que le patronat peut imaginer faire plus de bénéfices. De la même manière, c'est en cherchant sans cesse de nouveaux marchés pour écouler les marchandises que les profits peuvent augmenter. La délocalisation, la restructuration territoriale sont ainsi des phénomènes logiques dans le processus de production capitaliste. De fait, les migrations de prolétaires le sont également, qu'il s'agisse de migrations internes, des campagnes vers la ville, ou qu'il s'agisse de migrations externes, des pays dits du sud vers les pays du nord, en réalité des migrations qui s'opèrent entre des territoires moins industrialisés vers des territoires dont la production économique nécessite l'emploi plus important d'une main-d'œuvre peu qualifiée. Donc les migrations sont nécessaires au système de production capitaliste qui va toujours être à la recherche d'une main-d'œuvre moins bien payée. Donc quand la phase de développement de l'économie et du capitalisme s'appuyait sur l'exploitation des territoires colonisés, les États ils disposaient de viviers de main-d'œuvre corvéables à volonté dans les pays colonisés. Alors il y avait un vivier de main-d'œuvre et en même temps il y avait un accès facile aux matières premières. Mais du coup, la décolonisation et la phase de restructuration du capitalisme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle a entraîné une mondialisation de la production et elle a provoqué des délocalisations et des migrations massives du prolétariat des anciennes colonies vers les pays industrialisés. Et donc, comme il y a eu cette migration massive, et ben on a créé un statut juridique et idéologique du travailleur immigré. Parce que du coup, le système capitaliste, il implique une perpétuelle restructuration de la production. On va jamais reproduire exactement de la même manière. Et donc, pour maintenir un taux de profit, il s'agit de maintenir un faible coût de production. Pour cela, et c'est là que la migration entre en jeu, il y a une instrumentalisation d'une partie des travailleurs, donc qui va constituer ce qu'on appelle une armée de réserve. Une armée de réserve, c'est du coup un groupe de chômeurs plus ou moins longue durée, de migrants, de travailleurs précaires, pauvres ou peu qualifiés. Et ce groupe de personnes, du coup, qui est soumis à une immense précarité, et du coup prêt à accepter n'importe quel job, il constitue un vivier d'emplois de travailleurs non qualifiés et qu'on peut du coup très peu payer en cas de période de prospérité où il faut employer vite et pas longtemps. Mais quand on n'est pas en période de prospérité, comme ça l'est en ce moment, l'existence de cette main-d'œuvre potentielle, donc cette armée de réserve, agit comme une menace permanente pour les salariés plus qualifiés. Si tu n'acceptes pas les conditions de travail telles qu'elles te sont proposées, ne t'inquiète pas, il y a plus pauvre qui sera prêt à accepter les pires conditions de boulot. Donc ça permet de maintenir une pression vers le bas sur l'ensemble du marché du travail. La concurrence des chômeurs exerce une pression continuelle sur les salariés, ce qui permet d'abaisser les salaires au minimum et de déréglementer le travail en précarisant les conditions du salariat. Donc le travailleur clandestin, il a une double fonction, utile au patronat dans la production capitaliste. À la fois, il constitue une main-d'œuvre vraiment pas chère et jetable, entre guillemets, et complètement corvéable aux besoins de la production. Et ça sert aussi pour mettre la pression sur l'ensemble des travailleurs. Voilà, en vrai, il n'y a pas de... Malgré plein d'annonces, et on va voir un petit peu plus loin quels sont les mécanismes et les outils des politiques migratoires, il n'y a pas de réelle volonté du tout de diminuer le travail clandestin ou de réellement... réellement empêcher l'émigration. En fait, le but, c'est bien plutôt de gérer l'émigration et de la coordonner en fonction des besoins du marché du travail européen. Voilà, c'était juste pour revenir un petit peu sur comment sont instrumentalisés les migrants en Europe.
On a parlé donc des nécessités pour eux de gérer les migrations. Et il y a un outil qui a pas mal aidé à ça en Europe, c'est la mise en place de l'espace Schengen, qui a modifié donc les contours de la frontière, parce qu'il y avait donc une nécessité de faciliter la circulation des marchandises et des travailleurs, et donc d'ouvrir les frontières dans l'espace européen. Mais cette circulation, elle devait être contrôlée et rentabilisée. Il fallait organiser la main-d'œuvre en fonction des besoins de la production, c'est-à-dire agir sur les flux de travailleurs et opérer un tri à l'intérieur de ces flux. Donc la frontière, elle n'a pas disparu en Europe, bien au contraire, mais il y a eu un mécanisme où elle s'est renforcée aux limites extérieures de l'Europe et diffusée à l'intérieur. Donc cette dissémination dans le territoire, d'abord, c'est tous les relais possibles du contrôle. Parce que donc, quand on est migrant, il y a tout un tas d'endroits où c'est possible de soit subir un contrôle au faciès, soit une rafle qui vise plus largement, soit de subir la délation, etc. Et donc les relais du contrôle, ils se font partout, que ce soit dans les transports, dans la rue, au guichet d'une administration quelconque, agence d'intérim, banque, préfecture, etc. Et donc ce genre de contrôle qui vise les migrants, on peut aussi d'ailleurs le généraliser à l'ensemble de la population dans certains cas, parce qu'on sait un peu que la délation dans les administrations, c'est quand même un truc qui se précise ces derniers temps. Donc il y a cette dissémination dans le territoire avec ces relais-là. Il y a aussi des dispositifs qui sont plus particulièrement des dispositifs de gestion de l'immigration avec la construction de nouveaux centres de rétention sans arrêt. Il y en a 25 aujourd'hui. La complexification des demandes de visa ou d'asile, voilà, toutes les procédures qui deviennent de plus en plus complexes. Et la création de fichiers européens. Donc d'une harmonisation des fichiers entre les différents pays de l'Europe pour les demandeurs d'asile, pour les personnes expulsées, etc. Et avec toutes les techniques de pointe qui aident à ça. Donc ça, c'est ce qui s'organise à l'intérieur de l'Europe et on oublie certainement plein de choses, la présence policière et j'en oublie. Mais c'est des dispositifs qui rendent la frontière omniprésente et assez insaisissable parce qu'elle est partout, quoi. Et en parallèle de ça, on le disait, le contrôle des migrations, il se renforce aux portes de l'Europe, donc toutes les frontières extérieures. Donc là, c'est intéressant quand même à noter cette répartition des rôles entre les différents États européens qui correspond à la hiérarchie entre les différents États, avec la France et l'Allemagne au centre qui sont les pays les plus riches d'Europe, et qui délègue le sale boulot du contrôle de la frontière, du contrôle militaire de la frontière, etc., aux pays qui se trouvent en périphérie. Y a un accord, un règlement qui s'appelle Dublin II, qui a été adopté en 2003, qui va dans ce sens-là, puisque et c'est un accord qui permet de décider quel État européen est responsable de l'examen d'une demande d'asile, et qui dit plus ou moins tel quel que c'est le premier État dans lequel la personne elle est contrôlée. Donc ça va être forcément un des États frontaliers, et avec, pareil, une mise en place de fichiers qui permettent de détecter des personnes qui auraient déjà déposé une demande ailleurs et qui, du coup, va les empêcher d'en redéposer une dans un autre pays, etc. Voilà, donc du coup, ça c'est une des choses qui accroît le fait que c'est les États plus extérieurs de l'Europe qui vont avoir ce rôle-là de prise en charge des demandes d'asile, etc. Et donc voilà, un développement du contrôle aux frontières extérieures qui est administratif sur ce plan-là, par exemple, et pas seulement, puisque il est aussi militaire, et on va le voir. Ça passe aussi, entre autres, par la création de l'agence Frontex.
Alors, Frontex fait partie des autres dispositifs pour la gestion des migrants. En fait, il y a une action concertée de différentes instances et de différents dispositifs. Schengen, nous l'avons vu. Eurosur, qui est le système européen de surveillance des frontières et qui assure la coopération entre Frontex et les différents États, et Frontex, dont nous allons parler en détail, et qui s'occupe de ce qui gère le pourtour de l'Union européenne, et aussi l'OTAN, en particulier depuis le 11 septembre, qui prend prétexte de la lutte contre le terrorisme pour réguler la migration vers l'Union européenne, et qui est très actif en Méditerranée. Frontex a été créé en 2004. C'est l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Et nous allons voir plusieurs aspects de Frontex. La militarisation de l'espace de l'Union européenne et des frontières de l'Union européenne. La hiérarchisation des États. Le coût de Frontex et les rebonds, les impacts sur nos vies ordinaires. En termes de militarisation, c'est Jean Ziegler qui a qualifié Frontex d'organisation militaire quasi clandestine. En février 2010, Frontex comptait 26 hélicoptères, 22 avions légers, 113 navires, 476 appareils techniques. Une militarisation croissante des frontières maritimes qui, en fait, bien plus qu'elle ne protège l'Union européenne, fragmente les voies de migration, les allonge et rend les endroits de passage de plus en plus dangereux. Pour être clair, officiellement, il a pu être dénombré 20 000 disparus en mer depuis 1993. Dans les faits, les disparus en Méditerranée se situent entre 18 000 et 72 000, ce qui fait quand même pas mal de monde. Tout à l'heure, nous parlions du tri des travailleurs, du tri des humains. Frontex, c'est aussi le tri des États, entre les États riches et puissants et les États périphériques qui doivent subir des pressions et, comme cela a été dit tout à l'heure, se voient confier les plus vilains boulots. On parle beaucoup plus de des pays du Sud dans ce domaine, de la Grèce, de Malte, qui ont dû participer aux opérations Poséidon, de la Turquie, qui avec la Grèce, les deux pays ont dépensé environ 160 000 euros pour mener à bien cette opération Poséidon, de toutes les opérations de contrôle demandées par l'Union européenne. Mais il y a aussi la Finlande, dont on parle moins. La Finlande a fait moderniser sa flotte pour justement lutter contre l'immigration clandestine. Il s'agit d'équiper les navires de caméras thermiques, d'appareils de vision nocturne et de moult appareillages. L'autre hiérarchisation, l'autre sale boulot, a été déléguée aux États maghrébins qui se sont engagés à reprendre chez eux leurs propres ressortissants, mais également les migrants subsahariens et qui exercent parfois une répression très violente sur ces personnes. Donc, les États du nord de l'Afrique sont maintenant un portail d'immigration et jouent un sale rôle pour les États les plus riches. Cela étant, même pour les États les plus riches, Frontex a un coût. Au cours de la période 2008-2009, 18 397 314 euros ont été engagés par Frontex pour des actions en Italie, en Grèce, à Malte, en Espagne. Des sommes extrêmement importantes. Les 23 États concernés pour Frontex, pour la mise en place du système de contrôle aux frontières, ont en tout dépensé ces dernières années 543 697 746,36, je ne sais pas où ils ont trouvé les 36 centimes, euros. Alors, il faut mettre ça en regard des réalités contre lesquels Frontex sont censés lutter. Dans le monde, il y a 20 millions de personnes déplacées ou réfugiées. L'Europe en accueille 5%. Donc c'est quand même beaucoup de dépenses pour pas grand-chose. La théorie de l'invasion, c'est un peu lamentable. Le budget annuel de Frontex a été multiplié par 20 en 5 ans. On va comparer ça. Bon. Sans parler, il y a quelque chose dont il faut parler aussi. Ce sont toutes les nouvelles technologies développées par les marchands d'armes. Tout à l'heure, nous parlions des caméras de vidéosurveillance thermique, des détecteurs de chaleur, des détecteurs de mouvement, des systèmes de drones. Le budget global est estimé à 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, c'est grosso modo ce que réclamaient les associations caritatives pour assurer l'aide alimentaire aux plus démunis. Voilà pour le coup. Frontex, du point de vue des valeurs, cela veut dire des collaborations peu regardantes avec des pays du nord de l'Afrique. On a demandé à la Libye et à une certaine époque, on a demandé à la Tunisie d'être ce portail de l'immigration. Et ça n'a pas gêné l'Union européenne de collaborer avec des pays où la liberté et les droits de l'homme n'étaient pas exemplaires. Frontex, du point de vue des valeurs, cela veut dire aussi des alliances douteuses, car Frontex est un service de renseignement, c'est un relais policier, militaire, diplomatique. Frontex a passé des accords techniques de coopération avec des pays comme la Biélorussie. Alors la Biélorussie, 159e sur 179 au classement de la liberté de la presse fait par Reporters sans frontières. Des accords techniques de Frontex avec la Russie, 148e dans le classement de la liberté de la presse. Avec l'Ukraine, 126e. Avec la Turquie, 154e. Bientôt, des accords avec l'Azerbaïdjan, 156e sur 179. Frontex, c'est aussi des procédés contestables vis-à-vis des migrants. Claire Rodier, dans son livre « Xénophobie Business », fait l'analyse du marché de l'externalisation et du contrôle de l'immigration. Et elle explique comment les agents de sécurité reçoivent une formation de 5 jours sur les techniques de contrôle et de contention, ce qui explique ce qui a été mentionné tout à l'heure, les recours excessifs à la force, les tabassages. Frontex, c'est aussi valable pour nous. Si vous ne pouvez plus rire sur vos photos, c'est pour permettre à des logiciels de reconnaissance faciale de pouvoir vous identifier. Tout cela, ça fait partie des outils développés par Frontex. Donc Frontex, c'est pour eux, c'est pour nous, c'est pour vous.
Blanc pour mes peines, de la honte sur mes gènes, ils nous ont exploités sans gêne. Toutes nos ressources taries à échelle surhumaine, je suis la peur au confinement de leurs nerfs. Et me larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Je suis tout ce qu'ils haïssent. Ils en ont décidé ainsi. Le jour qui m'a amené ici a amorcé mon sursis. Nous n'ont jamais fait inscrit en lettres capitales. Sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale. Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales. Et qui se garderont bien de soulever tout scandale. Pour nous l'espoir lentement c'est tarif par escale. Entre charter, expulsion, l'univers carcéral. Être à jamais la bête noire de ces chacals. Et mon ambition première, je considère que c'est normal. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus tout être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, une dette en surenchère. Claquer la porte, il y a de ça fort longtemps, ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement et je brûle, me consume en quatre temps, une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos gens, pour des générations acquises par nettoyage mental, à qui je souhaite un examen de conscience radicale, si ce sol je foule encore, c'est pour que mes failles restent imprimées après ma mort, tu es né poussière, tu retourneras poussière, les vautours chaque jour dévoreront tes viscères, tu verras que rien ne sert d'espérer en vain, que la résignation pour toi est le plus court des chemins. Sur la brèche insolente et la branche qu'ils ont signée, se tient le rêve jamais brisé d'un à un, les voir tomber. Des racines asséchées de nos précieux oliviers, au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés. On prend part à la réécriture du scénar quand les lumières s'éteignent. Quant à nous, s'offre le soir, les murs se taisent, nos morts sur scène. Mais réel est le cauchemar. Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire. Du passage des frontières, du néant des carrières. Des drones, des gravières, des têtes en surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Par-dessus tout être autre chose qu'hier. Des drones, des gravières, des têtes en surenchère. Pour la guerre à ciel ouvert. Nadine, Bassam, Fadi, Sami, Ramtar, Soha, Malika, tous les frères, les sœurs, Arjibi.
Ouais, alors du coup, on va continuer en repartant un peu en arrière, mais pour parler de l'apparition, en fait, dans les années 80, de la figure du travailleur clandestin. Et du coup, pour introduire ça, je voulais parler de ce qui s'est passé en fait avant et pendant la guerre d'Algérie, donc bien avant les années 80. Donc une période où dans les colonies comme en métropole, bah, on utilisait pour les travaux les plus pénibles et éventuellement pour servir de chair à canon à l'occasion des guerres, et ben comme d'hab, les plus précaires, donc à cette époque les travailleurs colonisés. Et déjà, ces travailleurs étaient assez régulièrement enfermés dans des camps qui étaient soit des camps de travail ou encore des centres de détention administratifs aussi, et qui permettaient la surveillance politique des colonisés et leur tri. Donc en effet, ces travailleurs, de par leur position d'opprimés en tant que colonisés, étaient à la fois les plus exploitables, parce qu'ils avaient peu de possibilités de se révolter, mais aussi, paradoxalement, les plus susceptibles de se révolter. Donc on avait créé un ensemble répressif, depuis ces camps d'enfermement jusqu'à des forces de police spéciales, qui permettaient donc l'identification et la mise à l'écart, notamment des indépendantistes, et l'identification aussi et la mise au travail des plus dociles. Donc pour juste citer quelques exemples de ces forces de police, à savoir que quand même, il y a eu pendant longtemps des polices spéciales, donc des polices aux colonies dans les colonies, hein. Mais en métropole, à Paris particulièrement, il y avait des brigades de surveillance des Nord-Africains, donc ça cachait pas tellement son nom, qui sont passées après aux brigades agression-violence, brigades de surveillance de nuit. Mais bon, dans le travail était particulièrement de surveiller ce qu'on appelait à l'époque les indigènes colonisés. Donc, et elles sont devenues maintenant les BAC qui doivent surveiller les enfants des indigènes colonisés. Donc ça, c'était avant, pendant la guerre d'Algérie. Et donc dans l'année 60, avec en 64 la fin de la guerre d'Algérie, 62 pardon. Bah, à cette époque, donc la France est en chantier. Hein, on sait, par exemple, dans la région, on construisait le port industriel de Fos-Marseille. Et du coup, on avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et comme on n'avait plus de colonies, bah, on a fait venir des travailleurs des anciennes colonies, donc qui travaillaient dans des conditions misérables, avec beaucoup de morts, beaucoup de blessés sur les chantiers. Et qui avait aussi des conditions de vie, de logement assez misérables, vie en cabane, en caravane, etc. Mais ils étaient donc des travailleurs étrangers, mais légaux sur le territoire. Ils avaient des titres de séjour et même l'espoir d'obtenir un titre de séjour de 10 ans qui leur permettrait moins de précarité au bout d'un moment. Mais voilà, en 1974 arrive la crise. Et on va assister à la réapparition d'un discours anti-émigré, donc avec notamment l'apparition du FN sur l'échiquier politique. Alors bon, bien sûr, déjà, il y avait depuis les années 80 et même avant, il y avait déjà l'idée d'une menace d'invasion des pays riches par les populations du Sud, mais c'était une idée qui était essentiellement répandue dans les milieux d'extrême droite. Et à partir des années 80, cette idée, elle va être reprise et assumée par les partis de gouvernement, donc de gauche sous Mitterrand, de droite, qui ont intégré dans ces années 80 à leur discours toutes les représentations qui font du migrant un criminel, du migrant un terroriste, du migrant un sexiste, etc., etc. Et qui font, en tout cas, toutes ces représentations qui font de l'étranger un problème. Donc on va voir en 89, par exemple, Mitterrand qui va parler de seuil de tolérance dépassé à propos de l'immigration. Valéry Giscard d'Estaing, en 91, qui va dire qu'on n'est plus dans une problématique d'immigration, mais d'invasion. Et évidemment, Chirac, on se souvient, qui va parler du bruit et de l'odeur des immigrés, de la préférence nationale et d'une overdose d'immigrés. Attention. Donc, dans la pratique, ça va se traduire par l'illégalisation des ouvriers étrangers qui sont présents sur le sol français. Alors notamment, dans un premier temps, en les déplaçant vers des emplois plus précaires, notamment marqués par la sous-traitance. Donc ces travailleurs, ils vont toujours être employés dans les mêmes secteurs qu'avant, la construction, le bâtiment, le textile, mais sous des formes démultipliées de contrats externalisés ou précarisés, donc intérim, CDD, mission, travail indépendant, ce qui va rendre pour eux beaucoup plus difficile l'obtention, voire le renouvellement de leur permis de séjour. Ça va s'accentuer dans les années 90, au milieu des années 90, souvient que Pasqua avait réformé les lois régissant le séjour des étrangers et notamment avait supprimé cette possibilité d'obtenir au bout d'un certain nombre d'années de carte de séjour d'un an, cette carte de séjour de 10 ans. Et du coup, beaucoup, notamment des étudiants, vont plus avoir cette possibilité d'obtenir cette carte de séjour, alors qu'avant, la plupart l'obtenaient au terme de leurs études, notamment. Et on se souvient que ça avait créé quand même pas mal de mouvements, qu'il y avait eu des gros mouvements de sans-papiers à cette époque-là. Voilà. Donc, parallèlement à cette illégalisation des immigrés déjà présents sur le sol, on va aussi accentuer le contrôle aux frontières, on vous en a déjà parlé. Donc voilà, tout ça pour dire que... avant les années 80, donc il y avait ce travailleur étranger et qu'on a illégalisé au fur et à mesure des lois, mais que le travailleur étranger, en fait, il avait exactement la même fonction pour le capital que le travailleur clandestin aujourd'hui. Donc à savoir, ils n'avaient quasi aucun droit, ils étaient sous-payés, ils pouvaient pas vraiment revendiquer pour leurs droits. Les travailleurs illégalisés, donc clandestins, occupent, malgré le fait qu'ils ne représentent qu'une fraction minime de la population active des pays occidentaux, une place stratégique dans leur économie. Donc d'une part parce qu'ils assurent des tâches dans de nombreux secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services que personne ne veut faire, et d'autre part parce qu'ils font fonction de cobayes pour une dérégulation de l'ensemble du marché du travail, des marchés du travail à l'échelle internationale et des organisations économiques et sociales. En effet, ce travailleur illégal, illégalisé, est soumis à une précarité totale en termes de travail, bien sûr, mais aussi de logement, de santé, familiale, etc. Et il est ainsi rendu complètement adaptable, flexible, moins cher, et il contribue du coup à faire peser une pression sur les travailleurs qui ont des papiers, à faire baisser les salaires, rendre plus dures les conditions de travail, etc.
وعطاوهم بتهرم يشوفوا فات البلاد كيشغل الحبس كيشغل الكبرى يقول لك ما كانش سهر كاين الهم كاين الشر الاسبوار والهيها بعيد ورا البحر ما لا يبعد لومباصادا دوسي ورا دوسي كان اللي يشري كان اللي يدرح كان اللي بالمعرفة يبوسيا اللي ولا يفرسي يضرب قدها ضربة سردو كيشوف صحابه في الصيف رجعوا من الغربة كانوا لهنا الضحكة صبحوا ليها اللي ولا تعدل ولو رب خرجت عليها بالخدمة بالدار وبالموبيل.
Et voilà, vous êtes toujours sur ND Chaîne, tous les lundis, 20h, sur Radio Galère 88.4. Et on va terminer cette émission par un petit agenda, comme c'est l'habitude. Et d'abord, on voudrait vous informer ou vous confirmer que samedi 5 septembre, à Marseille, place Castellane, aura lieu une manifestation contre la montée des fascismes, contre les lois racistes et sécuritaires. Donc on va vous lire le texte d'appel de cette manifestation, la version longue qui peut-être ne se prête pas à un exercice radiophonique mais qui nous a semblé intéressant et que vous pouvez trouver dans tous les cas sur le site entre autres de Mille Babord et sur le site de Marseille Info Autonome, le deuxième qui apparaît quand on le met sur la barre d'outils. Donc manifestation contre les universités d'été du Front National à l'appel du collectif du 5 septembre. Quelques précisions. Les 5 et 6 septembre 2015 se tiendront à Marseille les universités d'été du Front National.
Que ce parti d'extrême droite puisse en toute impunité se réunir pour distiller ses propos nauséeux, diffuser un discours construit sur la haine de l'autre en combinant allègrement romophobie, islamophobie, négrophobie, homophobie, judéophobie, etc. et s'organiser sous nos yeux avec la ferme volonté d'imposer sa politique totalitaire et nationaliste, est une provocation à laquelle il n'est pas question de rester indifférent.
À Marseille, nous avons pu voir les effets de la politique du Front National,
sous l'impulsion d'un ravier pétainiste actif qui aime à fleurir, comme il le dit lui-même, les stèles des martyrs de l'Algérie française et qui ne cache pas sa sympathie pour les militants identitaires qui ont profané la statue de Manoukian, responsable des FTP Moy.
Et nous n'oublions pas que cette année sonne le 20e anniversaire de la mort d'Ibrahim Ali, jeune Marseillais assassiné par les couleurs d'affiches du Front National alors qu'il rentrait chez lui.
La ridicule saga type Poubelle la vie, offerte par la famille Le Pen, qui tendrait à nous faire croire qu'il y aurait des extrêmes droites plus ou moins fréquentables, est bien entendu une stratégie ridicule qui ne peut en aucun cas nous faire oublier leur but ultime, amener coûte que coûte le fascisme au pouvoir par la voie des urnes. Mais ce qui est plus grave est que cette stratégie lénifiante est relayée par l'ensemble des médias, qui participent ainsi au travail d'hygiénisation mené tambour battant par les cadres du FN. Encore une fois, les médias, en marge de tout esprit critique, se plient au sordide et servent au pire de la logique propagandiste où la politique devient une mascarade, une sorte de show télévisuel à la Secret Story, propre à endormir les consciences.
Mais lorsque nous parlons de racisme et de montée du fascisme, nous ne pouvons impunément séparer la politique menée par le Front National de celle conduite par la presque totalité de la classe politique parlementaire française. Car si les actes et les propos émanant du FN sont évidemment abjects, cela ne doit pas nous faire oublier que les gouvernements successifs, de droite hier comme de gauche aujourd'hui, appliquent au quotidien une politique raciste et sécuritaire, traquant et réprimant les migrants, traquant et expulsant les Roms, et menant dans les quartiers une politique violente et ségrégationniste.
Que des structures politiques, partis, syndicats ou associations s'emparent du combat anti-FN à des fins électoralistes, dénonçant d'un côté les exactions des frontistes tout en collaborant de l'autre à une politique gouvernementale intolérable, voilà bien également une provocation que nous ne pouvons plus accepter. Si nous savons la spécificité de chacune de ces structures et ne tombons pas dans le piège confusionniste du « tout pareil », elles ont malgré tout un point commun. Elles sont toutes au service d'une démocratie qui n'a de démocratique que le nom, dont le phare s'effrite de plus en plus pour montrer son vrai visage, celui d'une république qui s'est enrichie grâce à ses colonies et continue aujourd'hui sans vergogne sa politique colonialisme, que ce soit en dehors de ses frontières, par son ingérence économique et militaire, ou à l'intérieur de ses frontières, par sa politique discriminatoire dans les quartiers. Une république qui s'est construite sur le mensonge d'une France résistante, alors même qu'elle fut majoritairement collaborationniste. Une république qui s'arrange sans honte avec son histoire, brandissant d'une main la charte des droits de l'homme, et de l'autre imposant le joug et donnant de la matraque contre ceux-mêmes qui défendent cette charte.
Nous n'oublierons jamais le permis de tuer décerné par Hollande à Netanyahou lors du massacre de Gaza pendant l'été 2014. Nous n'oublierons jamais la politique islamophobe de Valls et sa façon de stigmatiser les jeunes des banlieues, rivalisant en cela avec son digne prédécesseur Sarkozy, qui promettait, quant à lui, d'en découdre avec la racaille. Ni sa façon de travailler la confusion entre antisémitisme et antisioniste, faisant de lui le principal promoteur de l'antisémitisme en France. Ni ses allégations contre les Roms, qui lui ont valu d'être traduits en justice pour incitation à la haine raciale par nos camarades du collectif La Voix des Roms.
Ce que nous vivrons le 5 septembre sera la juste illustration de ce constat. Nous crierons notre colère face à un rassemblement d'extrême droite qui est accueilli par une mairie de droite et sera protégé par la police, bras armés d'un gouvernement qui se dit socialiste. Ici, l'équation est parfaite.
Le 5 septembre, nous descendrons dans la rue, bien entendu, pour nous opposer à la présence du Front National à Marseille. Véritable affront à son histoire multiculturelle qui s'est bâtie et enrichie au gré des migrations, des brassages et des rencontres. Et plus largement pour dénoncer un jeu électoraliste qui sert une politique gouvernementale inacceptable. Mais également pour affirmer notre soutien total et sans condition à tous les migrants qui, de Vintimille à Calais, en passant par Paris-la-Chapelle, se battent actuellement contre la police socialiste avec la bénédiction du FN. Pour affirmer notre soutien total et sans condition aux Roms qui subissent le racisme d'État et sont régulièrement expulsés des bidonvilles, puis jetés à la rue, comme actuellement à la Courneuve, où le maire communiste, appuyé par le FN, œuvre à l'expulsion du plus vieux bidonville de France. Et crier notre colère au souvenir de tous les enfants des quartiers tués par la République française avec l'aval cynique du Front National, comme ce fut le cas dernièrement, lorsqu'à l'annonce de la scandaleuse relaxe des policiers responsables de la mort de Ziyad et Bouna, Marion Maréchal Le Pen déclara que ce jugement prouve que la racaille avait bien mis la banlieue à feu et à sang par plaisir et non à cause d'une bavure policière.
Car pour nous, il est un présupposé intangible qui est le moteur de chacune de nos luttes. Aucun mur, aucun barbelé ne sera jamais légitime. Aucune personne ne sera jamais illégale. Le collectif du 5 septembre.
Donc voilà, on vous rappelle, c'est la manif qui aura lieu donc, le 5 septembre à Marseille, départ 15h de la place Castellane.
Et pour compléter cet agenda, vous rappelez que le kiosque, qui est une bibliothèque, entre autres, rouvre ses portes, continue d'ouvrir ses portes, au 38 rue Clovis-Hugues dans le 3e, et que les permanences de la bibliothèque sont de 15h à 18h le samedi, le jeudi de 17h à 20h. Et que des cours de français gratuits et accessibles à tous reprennent ce mardi 1er septembre à 18h30, ainsi que donc tous les mardis à 18h30 et tous les samedis à 11h.
Donc voilà, le sujet des migrants n'est pas épuisé, le terme est léger. On aura l'occasion d'en reparler encore à plusieurs reprises sur les ondes de ND Chaîne dans les semaines à venir, où on va essayer donc pour le coup de les soutenir de plus près, déjà en faisant tourner leurs paroles, la leur, celle des migrants et qui arrivent jusqu'ici pour nous raconter comment ça se passe. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Une des chaînes. Ouais, bon, on est là la semaine prochaine. La prochaine semaine, les chaînes, c'est Radio Galère. Un petit Trabane pour la route.
Beaucoup de vaisseaux fantômes sillonnent les sept mers, parce qu'il y a beaucoup de mers dessus. Les morts sont plus nombreux que jamais, depuis que la grande guerre pour la liberté a été gagnée. Une liberté qui a imposé à l'humanité passeport et certificat de nationalité, signé de la toute-puissance étatique. L'ère des tyrans, despotes, maîtres absolus, rois, empereurs, flanqués de leurs laquais et courtisanes a été vaincue. Et celle qui a remporté la victoire, c'est l'ère d'une tyrannie plus grande encore, c'est l'ère du drapeau national, l'ère de l'État et de ses laquais.